Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Hey, was ist dein Unding?
La population allemande vieillit, mais qui va donc s'occuper des personnes âgées et dépendantes ? En Allemagne, les personnels soignants tirent la sonnette d'alarme pour alerter sur des conditions de travail de plus en plus difficiles. 70 ans après l'arrivée des travailleurs caribéens venus reconstruire l'Angleterre, les descendants de la génération Windrush sont toujours victimes de racisme au sein de la société britannique. Un reportage à suivre en deuxième partie de ce magazine. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue.
Ich lasse mich überraschen und begebe mich in professionelle Hände. So viel ist sicher. Okay.
Angela Merkel en visite dans une maison de retraite à Paderborn, dans le nord-ouest de l'Allemagne. À la veille de son 64e anniversaire, la chancelière a honoré une promesse faite un an plus tôt, lors d'un des débats télévisés de la campagne des législatives. Interpellée à l'époque par un jeune aide-soignant, Angela Merkel avait été invitée à venir se rendre compte par elle-même des conditions de travail dans les établissements de santé, notamment ceux qui accueillent les personnes âgées. Des conditions souvent difficiles et parfois même indignes.
Aber die anderen kommen von der Zeitung.
So. Ist ja auch ein besonderer Tag.
La maison de retraite de Paderborn n'est pas vraiment représentative, mais la visite a une valeur symbolique. La classe politique a compris qu'il y a une crise du personnel soignant. Il était temps. En Allemagne, comme dans d'autres pays européens, les personnels de santé n'en peuvent plus et ils en ont assez de se taire.
Pourquoi tolérons-nous que nos parents ou nos proches ne soient pas bien pris en charge dans les maisons de retraite, qu'ils restent dans leur merde, ne reçoivent pas à manger ou à boire, ou meurent sans personne pour leur tenir la main.
Regardez, nous avons besoin de votre aide. Venez et regardez. Une fois par mois, depuis 2013, une quarantaine de militants du mouvement Pflege am Boden manifestent devant la cathédrale de Cologne. Christine Herbert est l'une des fondatrices du mouvement. À 62 ans, dont 44 à travailler en tant qu'infirmière, elle fait partie de ceux qui, sans relâche, interpellent les citoyens sur la détresse de ses collègues qui s'occupent des malades et des personnes âgées.
Notre objectif est d'interpeller les citoyens et les responsables politiques sur la pénurie du personnel soignant afin qu'ils en prennent conscience et que les choses changent. Nous sommes des professionnels. Nous sommes à la source et nous savons ce qui se passe. Nous voyons chaque jour le dilemme des soignants quand les patients ne sont pas bien traités parce qu'il n'y a pas assez de personnel.
Environ 3 millions d'Allemands sont aujourd'hui en situation de dépendance et ils seront 1 million de plus d'ici à 2060. Pour s'occuper d'eux, des personnels soignants débordés qui travaillent 6 jours par semaine et doivent passer d'un patient à l'autre sans perdre une minute.
Quand je vois quelqu'un qui souffre dans son lit et que je sais que lui tenir la main ou lui dire des mots réconfortants l'aiderait, mais que j'ai en tête qu'il faut que je poursuive directement ma tournée parce qu'il y a encore plein de patients ou de résidents qui ont besoin de soins, cela me met la pression, car je ne peux pas fournir à cette personne l'attention dont elle a vraiment besoin.
Les conditions de travail sont devenues si mauvaises dans les établissements de santé qu'un aide-soignant y travaille en moyenne 13 ans avant de jeter l'éponge. Nina a réussi à tenir plus de 15 ans, mais depuis janvier, elle est en congé maladie. Elle avait choisi son métier pour s'occuper de personnes vulnérables, mais c'est elle qui a été vaincue.
Rentrer tous les jours à la maison insatisfaite parce qu'on sait qu'on ne sait pas bien occuper des patients et ne pas le supporter, ne pas pouvoir emmener les patients aux toilettes, ni même y aller soi-même, ou boire une gorgée d'eau pendant le service parce qu'on n'a pas une minute à soi, à la longue, ça finit par rendre malade.
La crise a fini par atteindre la classe politique. En mai, le nouveau ministre de la Santé, Jens Spahn, a annoncé un plan d'urgence. Parmi les mesures envisagées, le recrutement de 13 000 aides-soignants pour les établissements de personnes âgées et dépendantes et une augmentation de salaire pour rendre le métier plus attractif. Selon le ministre, il s'agit avant tout de surmonter une crise de confiance.
Wir spüren, denke ich, alle.
Nous sentons tous que la question posée est de savoir si la politique a vraiment compris ce qui se passe dans les hôpitaux et les maisons de retraite, à quel point la cadence de travail est devenue serrée. Et ce programme veut envoyer un signal clair. Oui, nous avons compris, nous voulons y remédier et ceci est une première étape importante. Et maintenant, il s'agit de continuer à améliorer les conditions de travail afin de pourvoir ces postes et de les rendre plus attractifs.
L'attractivité du métier est en effet l'un des principaux problèmes à régler. Actuellement, 36 000 postes sont vacants, dont 15 000 dans des établissements pour personnes âgées. Le financement est un autre obstacle à la résolution de la crise. Le secteur des soins est financé par une assurance dépendance à laquelle cotisent tous les salariés. Celle-ci va augmenter de 0,3% au 1er janvier 2019 pour compenser le déficit qui se creuse, 3 milliards d'euros cette année, et qui n'est pas près de se combler au vu du vieillissement croissant de la population allemande. Diese Menschen haben eins in die Kasse eingezahlt. Bürokratie in der Pflege ist doch längst nicht mehr normal. Und auf wen können die Menschen zählen, wenn überzogene Dokumentationspflichten langsam überhand nehmen? Zeit ist nicht Geld, sie ist ein Geschenk. Kann doch nicht sein, dass jeder nur noch an sich selber denkt. We got the remedy, sunshine, we got the remedy. Vous écoutez toujours Vue d'Allemagne, on passe maintenant la Manche pour se tourner vers le Royaume-Uni. Depuis fin juin, des célébrations rendent hommage à la culture caribéenne dans ce pays. Parmi elles, l'exposition Windrush, Songs in a Strange Land, à la British Library de Londres. Le titre vient du nom d'un bateau qui a emmené des travailleurs de toutes les Antilles vers la mère patrie il y a 70 ans. Mais le contexte de ces célébrations est difficile et les débats sur l'immigration qui agitent le pays depuis les attentats de Londres en 2005 ont créé un climat d'hostilité qui a failli gâcher ces moments de fête. Un reportage en Angleterre de Mélissa Chemam.
London is the place for me. Une chanson de Lord Kitchener du genre Calypso, devenue un emblème pour toute une génération. Symbole des promesses de réussite et d'intégration entre les colonies antillaises et la patrie anglaise. Elle est au centre d'une exposition organisée par la British Library à Londres pour célébrer les 70 ans de l'arrivée de l'Empire Windrush. Ce bateau, venu de Jamaïque en 1948, transportait les travailleurs des colonies vers l'Angleterre, venus contribuer à reconstruire le pays. Pour Elizabeth Cooper, commissaire de l'exposition, la musique est un des héritages les plus flagrants de cette arrivée.
Notre section musique s'articule avec le reste de l'exposition. Nous avons de la musique d'influence africaine et de la musique indo-caribéenne du début du XXe siècle, du reggae qui est né ici au Royaume-Uni, ainsi que du lover's rock, une sorte de résumé de la musique antillaise.
Spécialiste américaine de l'art des Caraïbes, Elizabeth a voulu mettre l'accent sur l'histoire de l'immigration afro-caribéenne en Grande-Bretagne qui remonte au XVe siècle.
Notre approche a été d'avoir un regard critique sur ces commémorations pour se demander ce que la génération Windrush signifie socialement, pour regarder d'où elle vient non seulement géographiquement mais aussi culturellement et historiquement. Pour cela, nous avons regardé les impacts de la colonisation, de l'esclavage et de la notion de race sur la société britannique depuis bien plus longtemps que 50 ou 70 ans.
Si Londres, avec son fameux carnaval de Notting Hill, est connu dans le monde entier pour la culture antillaise, de nombreuses autres villes anglaises ont ce même métissage, dont Birmingham, Liverpool et Bristol. C'est dans cette ville du sud-ouest du pays que l'artiste Michel Curtis a eu l'idée de créer une exposition autour des sept patrons de Saint-Paul, un des deux quartiers jamaïcains de la ville, pour mettre en valeur une histoire d'intégration souvent difficile pour une population qui a souffert du racisme et de la pauvreté, comme l'explique l'adjointe au maire Cléo Lake.
Les Bristoliens noirs iconiques est un projet nécessaire et une inspiration qui retrace le parcours, la contribution à notre histoire de ces importants acteurs du changement dans notre communauté pour que les jeunes et toute la population puissent connaître leur apport au progrès de notre ville, Bristol.
Michelle est comme Cléo d'origine jamaïcaine. Elle a toujours été inspirée par les hommes et les femmes de son quartier qui ont mis en place grèves et manifestations pour se faire accepter.
Mon projet a commencé comme un loisir. J'ai dessiné et écrit les biographies pour présenter ces personnes et les faire connaître. J'ai grandi dans une partie de la ville nommée Easton. Il y a deux quartiers où se sont installées les communautés noires, St. Paul's et Easton. J'ai grandi entouré de travailleurs, d'activistes, des gens qui ont beaucoup fait pour la communauté. Je suis maintenant mère de deux garçons et depuis quelques années, notre notre quartier a des problèmes de drogue. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est que ces problèmes viennent de ces jeunes Jamaïcains ou que c'est un problème lié aux Noirs et qu'il n'y a pas de modèle positif pour ces jeunes dans leur communauté. Comme si toutes les personnes de couleur étaient des criminels, des vendeurs de drogue ou ce genre de choses. Ce n'est vraiment pas mon expérience, ni celle des autres personnes noires que je connais. Comment changer cette vision ? C'est pour ça que j'ai commencé à dessiner ces portraits et à écrire ces biographies pour partager notre histoire. Les clichés perdurent et je pense constamment à la manière de toucher plus de gens avec notre histoire positive et les Bristoliens noirs iconiques parce qu'il y a encore un long chemin à faire, selon moi.
Mais au moment où se préparaient ces célébrations, le Royaume-Uni a plongé dans une crise sociale. L'une des illustrations a été le Windrush Scandal, provoqué par le renvoi dans les Antilles de travailleurs retraités qui vivaient en Grande-Bretagne depuis parfois plus de 60 ans. Un contexte qui a évidemment révélé le racisme parfois persistant dans un pays souvent loué pour son multiculturalisme, selon Elizabeth Cooper de la British Library.
L'exposition permet de prendre du recul sur le contexte actuel. On voit bien que cette hostilité fait partie d'un long héritage de lutte pour la liberté et l'intégration et en réponse à des tentatives des gouvernements britanniques d'exclure les descendants d'Antillais. L'exposition met en valeur la lutte pour les droits civiques, ici comme aux Antilles, et cela remet en perspective ce que les gens subissent aujourd'hui. Cela fait partie d'une longue tradition de défense d'un monde plus humain et plus juste auquel les Antillais appartiennent.
Le 7 juillet dernier a eu lieu à Bristol le carnaval de Saint-Paul, qui fêtait ses 50 ans, et les 26 et 27 août prochains aura lieu celui de Notting Hill. Malgré les préjugés et le contexte social difficile, la culture caribéenne n'a jamais été aussi bien représentée dans le pays. Mélissa Schemam à Londres et Bristol pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme toujours, rendez-vous sur notre site dw.com/français dans la rubrique médiathèque pour réécouter toutes les émissions ou vous abonner au podcast de Vue d'Allemagne. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.
I am not a qualified physician. And I don't want to give this injection. I am not a qualified physician. And I don't want to give this injection. But Dorothy is begging for trouble. She insists that I give her this needle. But darling, one thing I want you to know. Don't blame me for where the needle go. I push it in, she pull it out. I push it back, she start to shout. Dr. Keats.